Chapitre 3. Un poète grec du temps de Cicéron, Antiparos, chantait ainsi l'invention du moulin à eau, pour la moulure du grain, qui allait émanciper les femmes esclaves et ramener l'âge d'or. Épargnez le bras qui fait tourner la meule, ô meunière, et dormez paisiblement, que le coq vous avertisse en vain qu'il fait jour. Dao a imposé aux nymphes le travail des esclaves, et les voilà qui sautillent allègrement sur la roue, et voilà que l'essieu ébranlé roule avec ses raies, faisant tourner la pesante pierre roulante. Vivons de la vie de nos pères, et oisifs, réjouissons-nous des dons que la déesse accorde. Hélas! Les loisirs que le poète païen annonçait ne sont pas venus. La passion aveugle, perverse et homicide du travail transforme la machine libératrice en instrument d'asservissement des hommes libres. Sa productivité les appauvrit. Une bonne ouvrière ne fait avec le fuseau que 5 mailles à la minute. Certains métiers circulaires à tisser en font 30 000 dans le même temps. Chaque minute de la machine équivaut donc à 100 heures de travail de l'ouvrière, ou bien chaque minute de travail de la machine délivre à l'ouvrière 10 jours de repos. Ce qui est vrai pour l'industrie du tricotage est plus ou moins vrai pour toutes les industries renouvelées par la mécanique moderne. Mais que voyons-nous? À mesure que la machine se perfectionne et abat le travail de l'homme avec une rapidité et une précision sans cesse croissante, l'ouvrier, au lieu de prolonger son repos d'autant, redouble d'ardeur, comme s'il voulait rivaliser avec la machine. Ô concurrence absurde et meurtrière! Pour que la concurrence de l'homme et de la machine prît libre carrière, les prolétaires ont aboli les sages lois qui limitaient le travail des artisans des antiques corporations. Ils ont supprimé le jour férié, parce que les producteurs d'alors ne travaillent que 5 jours sur 7, croient-ils donc. Ainsi que le racontent les économistes menteurs, qu'ils ne vivaient que d'air et d'eau fraîche. Allons donc. Ils avaient des loisirs pour goûter les joies de la terre, pour faire l'amour et rigoler, pour banqueter joyeusement en l'honneur du réjouissant dieu de la fainéantise. L'amoureuse Angleterre, encagotée dans le protestantisme, se nommait alors la joyeuse Angleterre, Merry England. Rabelais, Quevedo, Cervantes, les auteurs inconnus des romans picaresques nous font venir l'eau à la bouche avec leur peinture de ces monumentales ripailles dont on se régalait alors entre 2 batailles et 2 dévastations et dans lesquelles tout allait par écuelle. Jordaens et l'école flamande les ont écrites sur leurs toiles réjouissantes. Sublimes estomacs gargantuesques, qu'êtes-vous devenus? Sublimes cerveaux qui encercliez toute la pensée humaine, qu'êtes-vous devenus? Nous sommes bien dégénérés et bien rapetissés. La vache enragée, la pomme de terre, le vin fusciné, le schnaps prussien savamment combiné avec le travail forcé ont débilité nos corps et borné nos esprits. Et c'est alors que l'homme rétrécit son estomac et que la machine élargit sa productivité. C'est alors que les économistes nous prêchent la théorie malthusienne, la religion de l'abstinence et le dogme du travail. Mais il faudrait leur arracher la langue et la jeter aux chiens. Parce que la classe ouvrière, avec sa bonne foi simpliste, s'est laissée endoctriner, parce qu'avec son impétuosité naïve, elle s'est précipitée à l'aveugle dans le travail et l'abstinence, la classe capitaliste s'est trouvée condamnée à la paresse et à la jouissance forcée, à l'improductivité et à la surconsommation. Mais si le surtravail de l'ouvrier meurtrit sa chair et tenaille ses nerfs, il est aussi fécond en douleur pour les bourgeois. L'abstinence à laquelle se condamne la classe ouvrière, oblige les bourgeois à se consacrer à la surconsommation des produits qu'elle manufacture désordonnément. Au début de la production capitaliste, il y a 1 ou 2 siècles de cela, le bourgeois était un homme rangé, de mœurs raisonnables plaisibles, il se contentait de sa femme, ou à peu près. Il ne buvait qu'à sa soif et ne mangeait qu'à sa faim. Il laissait aux courtisans et aux courtisanes les nobles vertus de la vie débauchée. Aujourd'hui, il n'est fils de parvenu qui ne se croit tenu de développer la prostitution et de mercurialiser son corps pour donner un but au labeur que s'imposent les ouvriers des mines de mercure. Il n'est bourgeois qui ne s'empiffre de chapons truffés et de Laffitte naviguer pour encourager les éleveurs de la Flèche et les vignerons du Bordelais. À ce métier, l'organisme se délabre rapidement, les cheveux tombent, les dents se déchaussent, le tronc se déforme, le ventre s'entripaille, la respiration s'embarrasse, les mouvements s'alourdissent, les articulations s'ankylosent, les phalanges se nouent. D'autres, trop malingres pour supporter les fatigues de la débauche, mais dotés de la bosse du prud'homisme, dessèchent leur cervelle, comme les garniers de l'économie politique, les acolasses de la philosophie juridique, à élucubrer de gros livres soporifiques pour occuper les loisirs des compositeurs et des imprimeurs. Les femmes du monde vivent une vie de martyr. Pour essayer et faire valoir les toilettes féeriques que les couturières se tuent à bâtir, du soir au matin, elles font la navette d'une robe dans une autre. Pendant des heures, elles livrent leurs têtes creuses aux artistes capillaires qui, à tout prix, veulent assouvir leur passion pour l'échafaudage de faux chignons. Sanglées dans leurs corsets, à l'étroit dans leurs bottines, décolletées à faire rougir un sapeur, elles tournoient des nuits entières dans leurs balles de charité afin de ramasser quelques sous pour le pauvre monde. Saintes âmes. Pour remplir sa double fonction sociale de non-producteur et de surconsommateur, la bourgeoisie dut non seulement violenter ses goûts modestes, perdre ses habitudes laborieuses d'il y a 2 siècles et se livrer au luxe effréné, aux indigestions truffées et aux débauches syphilistiques, mais encore soustraire au travail productif une masse énorme d'hommes afin de se procurer des aides. Voici quelques chiffres qui prouvent combien colossale est cette déperdition de forces productives. D'après le recensement de 1861, la population de l'Angleterre et du Pays de Galles comprenait 20 066 244 personnes, dont 9 776 259 du sexe masculin et 10 289 965 du sexe féminin. Si l'on déduit ce qui est trop vieux ou trop jeune pour travailler, les femmes, les adolescents et les enfants improductifs, puis les professions idéologiques telles que gouvernants, police, clergé, magistrature, armée, prostitution, arts, sciences, etc. Ensuite, les gens exclusivement occupés à manger le travail d'autrui, sous la forme de rentes foncières, d'intérêts, de dividendes, etc. Il reste en gros 8 millions d'individus, des deux sexes, de tout âge, y compris les capitalistes fonctionnant dans la production, le commerce, la finance, etc. Sur ces 8 millions, on compte travailleurs agricoles, y compris les valets, les bergers et les filles de ferme habitant chez les fermiers. 1 098 261. Ouvriers des fabriques de coton, de laine, de chanvre, de lin, de soie, de tricotage. 642 607. Ouvriers des mines de charbon et de métal. 565 835. Ouvriers métallurgiques, au fourneau, laminoir, etc. 396 998. Classe domestique, 1 208 648. Si nous additionnons les travailleurs des fabriques textiles et ceux des mines de charbon et de métal, nous obtenons le chiffre de 1 208 442. Si nous additionnons les premiers et ceux de toutes les usines métallurgiques, nous avons un total de 1 039 605 personnes. C'est-à-dire, chaque fois un nombre plus petit que celui des esclaves domestiques modernes. Voilà le magnifique résultat de l'exploitation capitaliste des machines. À toute cette classe domestique, dont la grandeur indique le degré atteint par la civilisation capitaliste, il faut ajouter la classe nombreuse des malheureux voués exclusivement à la satisfaction des goûts dispendieux et futiles des classes riches. Tailleurs de diamants, dentelières, brodeuses, relieurs de luxe, couturières de luxe, décorateurs de maisons de plaisance, etc. Une fois accroupie dans la paresse absolue et démoralisée par la jouissance forcée, la bourgeoisie, malgré le mal qu'elle en eut, s'accommoda de son nouveau genre de vie. Avec horreur, elle envisagea tout changement. La vue des misérables, conditions d'existence acceptées avec résignation par la classe ouvrière et celle de la dégradation organique engendrée par la passion dépravée du travail, augmentait encore sa répulsion pour toute imposition du travail et pour toute restriction de jouissance. C'est précisément alors que, sans tenir compte de la démoralisation, que la bourgeoisie s'était imposée comme un devoir social, les prolétaires se mirent en tête d'infliger le travail aux capitalistes. Les naïfs, ils prirent au sérieux les théories des économistes et des moralistes sur le travail et se sanglèrent les reins pour en imposer la pratique aux capitalistes. Le prolétariat arbora la devise « Qui ne travaille pas, ne mange pas ». Lyon, en 1831, se leva pour du plomb ou du travail. Les insurgés de juin 48 réclamèrent le droit au travail. Les fédérés de mars 1871 déclarèrent leur soulèvement « La révolution du travail ». À ces déchaînements de fureur barbare, destructive de toute jouissance et de toute paresse bourgeoise, les capitalistes ne pouvaient répondre que par la répression féroce. Mais ils savent que, s'ils ont pu comprimer ces explosions révolutionnaires, ils n'ont pas noyé dans le sang de leur massacre gigantesque l'absurde idée du prolétariat de vouloir infliger le travail aux classes oisives et repues. Et c'est pour détourner ce malheur qu'ils s'entourent de prétoriens, de policiers, de magistrats, de geôliers entretenus dans une improductivité laborieuse. On ne peut plus conserver d'illusions sur le caractère des armées modernes. Elles ne sont maintenues en permanence que pour comprimer l'ennemi intérieur. C'est ainsi que les forts de Paris et de Lyon n'ont pas été construits pour défendre la ville comme contre l'étranger, mais pour l'écraser si elle se révoltait. Et s'il fallait un exemple sans réplique, citons l'armée de Belgique, de ce pays de cocagne du capitalisme. Sa neutralité est garantie par les puissances européennes et cependant son armée est une des plus fortes proportionnellement à la population. Les glorieux champs de bataille de la brave armée belge sont les plaines du Bourrinage et de Charleroi. C'est dans le sang des mineurs et des ouvriers des armées que les officiers belges trempent leurs épées et ramassent leurs épaulettes. Les nations européennes n'ont pas des armées nationales mais des armées mercenaires. Elles protègent les capitalistes contre la fureur populaire qui voudrait les condamner à 10 heures de mine ou de filature. Donc en se serrant le ventre, la classe ouvrière a développé outre mesure le ventre de la bourgeoisie, condamnée à la surconsommation. Pour être soulagée de son pénible travail, la bourgeoisie a retiré des classes ouvrières une masse d'hommes de beaucoup supérieure à celle qui restait consacrée à la production utile, et l'a condamnée à son tour à l'improductivité et à la surconsommation. Mais ce troupeau de bouches inutiles, malgré sa voracité insatiable, ne suffit pas à consommer toutes les marchandises que les ouvriers, abrutis par le dogme du travail, produisent comme des maniaques, sans vouloir les consommer, et sans même songer si l'on trouvera des gens pour les consommer. En présence de cette double folie des travailleurs de se tuer de surtravail et de végéter dans l'abstinence, le grand problème de la production capitaliste n'est plus de trouver des producteurs et de décupler leurs forces, mais de découvrir des consommateurs, d'exciter leurs appétits et de leur créer des besoins factices. Puisque les ouvriers européens grelottant de froid et de faim refusent de porter les étoffes qu'ils tissent, de boire les vins qu'ils récoltent, les pauvres fabricants ainsi que des dératés doivent courir aux antipodes chercher qui les portera et qui les boira. Ce sont des centaines de millions et de milliards que l'Europe exporte tous les ans aux quatre coins du monde à des peuplades qui n'en ont que faire. Mais les continents explorés ne sont plus assez vastes. Il faut des pays vierges. Les fabricants de l'Europe rêvent nuit et jour de l'Afrique, du lac saharien, des chemins de fer du Soudan. Avec anxiété, ils suivent les progrès des Livingstone, des Stanley, des Duchailly et des De Brazza, bouche béante. Ils écoutent les histoires mirambolantes de ces courageux voyageurs. Que de merveilles inconnues renferment le continent noir. Des champs sont plantés de dents d'éléphants. Des fleuves d'huile de coco charrient des paillettes d'or. Des millions de culs noirs nus, comme la face de Dufour ou de Girardin, attendent des cotonnades pour apprendre la décence. Des bouteilles de schnapps et des bibles pour connaître les vertus de la civilisation. Mais tout est impuissant. Bourgeois qui s'empiffrent, classe domestique qui dépasse la classe productive, nation étrangère et barbare que l'on engorge de produits qui s'entassent plus haut et plus énormes que les pyramides d'Égypte, la productivité des ouvriers européens défie toute consommation, tout gaspillage. Les fabricants, affolés, ne savent plus où donner de la tête. Ils ne peuvent plus trouver de matières premières pour satisfaire la passion désordonnée, dépravée de leurs ouvriers pour le travail. Dans nos départements lainiers, on effiloche les chiffons souillés à demi pourris. On en fait des draps dits de renaissance qui durent ce que durent les promesses électorales. À Lyon, au lieu de laisser à la fibre soyeuse sa simplicité et sa souplesse naturelle, on la surcharge de sels minéraux qui, en lui ajoutant du poids, la rendent friable et de peu d'usage. Tous nos produits sont adultérés pour en faciliter l'écoulement et en abréger l'existence. Notre époque sera appelée l'âge de la falsification, comme les premières époques de l'humanité. On reçut les noms d'âge de pierre, d'âge de bronze, du caractère de leur production. Des ignorants accusent de fraude nos pieux industriels, tandis qu'en réalité la pensée qui les anime est de fournir du travail aux ouvriers qui ne peuvent se résigner à vivre les bras croisés. Ces falsifications, qui pour unique mobile ont un sentiment humanitaire, mais qui rapportent de superbes profits aux fabricants qui les pratiquent, si elles sont désastreuses pour la qualité des marchandises, si elles sont une source intarissable de gaspillage du travail humain, prouvent la philanthropique ingéniosité des bourgeois et l'horrible perversion des ouvriers qui, pour assouvir leur vice du travail, obligent les industriels à étouffer les cris de leur conscience et à violer même les lois de l'honnêteté commerciale. Et cependant, en dépit de la surproduction des marchandises, en dépit des falsifications industrielles, les ouvriers encombrent le marché innombrablement implorant du travail. Du travail. Leur surabondance devrait les obliger à refréner leur passion. Au contraire, elle la porte au paroxysme. Qu'une chance de travail se présente, ils se ruent dessus. C'est alors ces 12-14 heures qu'ils réclament pour avoir leur soûl. Et le lendemain, les voilà de nouveau rejetés sur le pavé sans plus rien pour alimenter leurs vices. Tous les ans, dans toutes les industries, des chômages reviennent avec la régularité des saisons. Au surtravail meurtrier pour l'organisme succède le repos absolu, pendant des 3 et 6 mois, et plus de travail, plus de pitance. Puisque le vice du travail est diaboliquement chevillé dans le cœur des ouvriers, puisque ses exigences étouffent tous les autres instincts de la nature, puisque la quantité de travail requise par la société est forcément limitée par la consommation et par l'abondance de la matière première, pourquoi dévorer en 6 mois le travail de toute l'année? Pourquoi ne pas distribuer uniformément, sur les 12 mois, et forcer tout ouvrier à se contenter de 5 ou 6 heures par jour pendant l'année au lieu de prendre les indigestions de 12 heures pendant 6 mois? Assurés de leur part quotidienne de travail, les ouvriers ne se jalouseront plus, ne se battront plus pour s'arracher le travail des mains et le pain dans la bouche. Alors, non épuisés de corps et d'esprit, ils commenceront à pratiquer les vertus de la paresse. Abêtis par leurs vices, les ouvriers n'ont pu s'élever à l'intelligence de ce fait que, pour avoir du travail pour tous, il fallait le rationner comme l'eau sur un navire en détresse. Cependant, des industriels, au nom de l'exploitation capitaliste, ont depuis longtemps demandé une limitation légale de la journée du travail. Devant la commission de 1860 sur l'enseignement professionnel, un des plus grands manufacturiers de l'Alsace, M. Bourcard, de Guebwiller, déclarait que la journée de 12 heures était excessive et devait être ramenée à 11, que l'on devait suspendre le travail à 2 heures le samedi. Je puis conseiller l'adoption de cette mesure, quoiqu'elle paraisse onéreuse à première vue. Nous l'avons expérimentée dans nos établissements industriels depuis 4 ans et nous nous en trouvons bien. Et la production moyenne, loin d'avoir diminué, a augmenté. Dans son étude sur les machines, M.F. Passy cite la lettre suivante d'un grand industriel belge, M. Otaveré. Nos machines, quoique les mêmes que celles des filatures anglaises, ne produisent pas ce qu'elles devraient produire, et ce que produiraient ces mêmes machines en Angleterre, quoique les filatures travaillent 2 heures de moins par jour. Nous travaillons tous 2 grandes heures de trop. J'ai la conviction que si l'on ne travaillait que 11 heures au lieu de 13, nous aurions la même production, et produirions par conséquent plus économiquement. D'un autre côté, M. Leroy Beaulieu affirme que c'est une observation d'un grand manufacturier belge que les semaines où tombe un jour férié n'apportent pas une production inférieure à celle des semaines ordinaires. Ce que le peuple, pipé en sa simplesse par les moralistes, n'a jamais osé, un gouvernement aristocratique l'a osé, méprisant les hautes considérations morales et industrielles des économistes qui, comme les oiseaux de mauvais augure, croissaient que diminuer d'1 heure le travail des fabriques c'était décréter la ruine de l'industrie anglaise, le gouvernement de l'Angleterre a défendu par une loi strictement observée de travailler plus de 10 heures par jour. Et après, comme avant, l'Angleterre demeure la première nation industrielle du monde. La grande expérience anglaise est là. L'expérience de quelques capitalistes intelligents est là. Elle démontre irréfutablement que, pour puissancier la productivité humaine, il faut réduire les heures de travail et multiplier les jours de paix et de fête, et le peuple français n'est pas convaincu. Mais si une misérable réduction de 2 heures a augmenté en 10 ans de près d'un tiers la production anglaise, quelle marche vertigineuse imprimera à la production française une réduction légale de la journée de travail à 3 heures? Les ouvriers ne peuvent-ils donc comprendre qu'en se surmenant de travail, ils épuisent leur force et celle de leur progéniture, que, usés, ils arrivent avant l'âge à être incapables de tout travail, qu'absorbés, abrutis par un seul vice, ils ne sont plus des hommes, mais des tronçons d'hommes, qu'ils tuent en eux toutes les belles facultés pour ne laisser de boue et luxuriante que la folie furibonde du travail. Ah, comme des perroquets d'Arcadie, ils répètent la leçon des économistes. Travaillons, travaillons pour accroître la richesse nationale. Ou idiots. C'est parce que vous travaillez trop que l'outillage industriel se développe lentement. Cessez de braire et écoutez un économiste. Il n'est pas un aigle. Ce n'est que M. Rebaud que nous avons eu le bonheur de perdre il y a quelques mois. C'est en général sur les conditions de la main-d'œuvre que se règle la révolution dans les méthodes de travail. Tant que la main-d'œuvre fournit ses services à bas prix, on la prodigue. On cherche à l'épargner quand ses services deviennent plus coûteux. Pour forcer les capitalistes à perfectionner leurs machines de bois et de fer, il faut hausser les salaires et diminuer les heures de travail des machines de chair et d'os. Les preuves à l'appui, c'est par centaines qu'on peut les fournir. Dans la filature, le métier revendeur, self-acting-mu, fut inventé et appliqué à Manchester, parce que les fileuses se refusaient à travailler aussi longtemps qu'auparavant. En Amérique, la machine envahit toutes les branches de la production agricole, depuis la fabrication du beurre jusqu'au sarclage des blés. Pourquoi ? Parce que l'Américain, libre et paresseux, aimerait mieux 1000 morts que la vie bovine du paysan français. Le labourage si pénible en notre glorieuse France, si riche en courbatures, est, dans l'Ouest américain, un agréable passe-temps au grand air que l'on prend assis en fumant nonchalamment sa pipe. Si, en diminuant les heures de travail, l'on conquiert à la production sociale de nouvelles forces mécaniques, en obligeant les ouvriers à consommer leurs produits, on conquerra une immense armée de forces de travail. La bourgeoisie, déchargée alors de sa tâche de consommateur universel, s'empressera de licencier la cohue de soldats, de magistrats, de figaristes, de proxénètes, etc., qu'elle a retirés du travail utile pour l'aider à consommer et à gaspiller. C'est alors que le marché du travail sera débordant. C'est alors qu'il faudra une loi de fer pour mettre l'interdit sur le travail. Il sera impossible de trouver de la besogne pour cette nuée de scies devant improductifs, plus nombreux que les poux des bois. Et après eux, il faudra songer à tous ceux qui pourvoyaient à leurs besoins égouts futiles, dispendieux. Quand il n'y aura plus de laquais et de généraux à galonner, plus de prostituées libres et mariées à couvrir de dentelles, plus de canons à forer, plus de palais à bâtir, il faudra, par des lois sévères imposées aux ouvrières et ouvriers, en passementerie, en dentelle, en fer, en bâtiment, du canotage hygiénique et des exercices chorégraphiques pour le rétablissement de leur santé et le perfectionnement de la race. Du moment que les produits européens consommés sur place ne seront plus transportés au diable, il faudra bien que les marins, les hommes d'équipe, les camionneurs s'assoient et apprennent à tourner les pouces. Les bienheureux Polynésiens pourront alors se livrer à l'amour libre sans craindre les coups de pied de la Vénus civilisée et les sermons de la morale européenne. Il y a plus. Afin de trouver du travail pour toutes les non-valeurs de la société actuelle, afin de laisser l'outillage industriel se développer indéfiniment, la classe ouvrière devra, comme la bourgeoisie, violenter ses goûts abstinents et développer indéfiniment ses capacités consommatrices. Au lieu de manger par jour 1 ou 2 onces de viande coriace, quand elle en mange, elle mangera de juteux beefsteak de 1 ou 2 livres. Au lieu de boire modérément du mauvais vin, plus catholique que le pape, elle boira à grandes et profondes rasades du Bordeaux, du Bourgogne sans baptême industriel, et laissera l'eau aux bêtes. Les prolétaires ont arrêté en leur tête d'infliger aux capitalistes des 10 heures de forge et de raffinerie. Là est une grande faute. La cause des antagonistes sociaux et des guerres civiles. Défendre et non imposer le travail, il faudra. Les Rothschild, les Say, seront admis à faire la preuve d'avoir été, leur vie durant, de parfaits vauriens. Et s'ils jurent vouloir continuer à vivre en parfaits vauriens malgré l'entraînement général pour le travail, ils seront mis en carte à leurs mairies respectives. Ils recevront tous les matins une pièce de 20 francs pour leur menu plaisir. Les discordes sociales s'évanouiront. Les rentiers, les capitalistes, tous les premiers, se rallieront au Parti populaire une fois convaincus que loin de leur vouloir du mal, on veut au contraire les débarrasser du travail, de surconsommation et du gaspillage dont ils ont été accablés dès leur naissance. Quand les bourgeois incapables de prouver leur titre de vaurien, on les laissera suivre leur instinct, il existe suffisamment de métiers dégoûtants pour les caser. Dufort nettoyait des latrines publiques. Galifet chouinerait les cochons galeux et les chevaux farcineux. Les membres de la commission des grâces, envoyés à Poissy, marqueraient les bœufs et les moutons à abattre. Les sénateurs attachés aux pompes funèbres joueraient les croque-morts. Pour d'autres, on trouverait des métiers à portée de leur intelligence. L'orgeril Breuil boucherait les bouteilles de champagne, mais on les muselerait pour les empêcher de s'enivrer. Ferry, Fraissinet, Tirard détruiraient les punaises et les vermines des ministères et autres auberges publiques. Il faudra cependant mettre les deniers publics hors de la portée des bourgeois, de peur des habitudes acquises. Mais dure et longue vengeance, on tirera des moralistes qui ont perverti l'humaine nature, des cagots, des cafards, des hypocrites, citation, et autres telles sectes de gens qui se sont déguisés comme masques pour tromper le monde. Car donnant entendre aux populaires communs qu'ils ne sont occupés sinon à contemplation et dévotion, en jeûne et macération de la sensualité, sinon vraiment pour sustenter et alimenter la petite fragilité de leur humanité. Au contraire, font chair, et Dieu sait quelle. Et curios simulant cette bacchanalia vivunt. Vous le pouvez lire en grosses lettres et en luminure de leur rouge museau et ventre à poulaine, sinon quand ils se parfument de soulfre. Fin de citation. Rabelais Pantagruel. Au jour des grandes réjouissances populaires où, au lieu d'avaler de la poussière comme au 15 août et au 14 juillet du bourgeoisisme, les communistes et les collectivistes feront aller les flocons, trotter les jambons et voler les gobelets, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, les prêtres à longue et courte robe de l'Église économique, catholique, protestante, juive, positiviste et libre penseuse, les propagandeurs du malthusianisme, de la morale chrétienne, altruiste, indépendante ou soumise, vêtue de jaune, tiendront la chandelle à s'en brûler les doigts et vivront en famine auprès des femmes galloises et des tables chargées de viande, de fruits et de fleurs et mourront de soif auprès des tonneaux débondés. Quatre fois l'an, au changement des saisons, ainsi que les chiens des rémouleurs, on les enfermera dans de grandes roues et pendant 10 heures on les condamnera à moudre du vent. Les avocats et les légistes subiront la même peine. En régime de paresse, pour tuer le temps qui nous tue seconde par seconde, il y aura des spectacles et des représentations théâtrales, toujours et toujours. C'est de l'ouvrage tout trouvé pour nos bourgeois législateurs. On les organisera par bandes, courant les foires et les villages, donnant des représentations législatives. Les généraux en bottes à l'écuyère, la poitrine chamarrée d'aiguillettes, de crachats, de croix de la Légion d'honneur, iront par les rues et les places, racolant les bonnes gens. Gambetta et Cassagnac, son compère, feront le boniment de la porte. Cassagnac, en grand costume de matamor, roulant des yeux, tordant la moustache, crachant de l'étoupe enflammée, menacera tout le monde du pistolet de son père et s'abîmera dans un trou dès qu'on lui montrera le portrait de Lullier. Gambetta discourra sur la politique étrangère, sur la petite Grèce qui l'endoctrise et mettrait l'Europe en feu pour filouter la Turquie, sur la grande Russie qui le stultifie avec la compote qu'elle promet de faire de la Prusse et qui souhaite à l'ouest de l'Europe plaies et bosses pour faire sa pelote à l'est et étrangler le nihilisme à l'intérieur. Sur M. de Bismarck, qui a été assez bon pour lui permettre de se proclamer sur l'amnistie, puis dénudant sa large bedaine peinte aux trois couleurs, il battra dessus le rappel et énumérera les délicieuses petites bêtes, les ortolans, les truffes, les vers de Margot d'Yquem, qu'il y a engloutonnés pour encourager l'agriculture et tenir en liesse les électeurs de Belleville. Dans la baraque, on débutera par la farce électorale. Devant des électeurs à tête de bois et oreilles d'âne, les candidats bourgeois vêtus en paillasse danseront la danse des libertés plus politiques, se torchant la face et la postface avec leurs programmes électoraux aux multiples promesses, et parlant avec des larmes dans les yeux des misères du peuple et avec du cuivre dans la voix des gloires de la France. Et les têtes des électeurs de brèrent en chœur et solidement « i-an, i-an ». Puis commencera la grande pièce, le vol des biens de la nation. La France capitaliste, énorme femelle velue de la face et chauve du crâne, avachie aux chairs flasques, bouffies, blafardes, aux yeux éteints ensommeillés et bâillants, s'allonge sur un canapé de velours. À ses pieds, le capitalisme industriel, gigantesque organisme de fer à masque simiesque, dévore mécaniquement des hommes, des femmes, des enfants, dont les cris lugubres et déchirants emplissent l'air. La banque, à museau de fouine, à corps d'hyène et main de harpie, lui dérobe prestement les pièces de 100 sous de la poche. Des hordes de misérables prolétaires décharnés, en haillons, escortés de gendarmes, le sabre au clair, chassés par des furies, les cinglant avec les fouets de la faim, apportent aux pieds de la France capitaliste des monceaux de marchandises, des barriques de vin, des sacs d'or et de blé. Langlois, sa culotte d'une main, le testament de Prudhon de l'autre, les livres du budget entre les dents, se campent à la tête des défenseurs des biens de la nation et montent la garde. Les fardeaux déposés à coups de crosse et de baïonnette, ils font chasser les ouvriers et ouvrent la porte aux industriels, aux commerçants et aux banquiers. Pêle-mêle, ils se précipitent sur le tas, avalant des cotonnades, des sacs de blé, des lingots d'or, vidant des barriques. N'en pouvant plus, sales, dégoûtants, ils s'affaissent dans leurs ordures et leurs vomissements. Alors le tonnerre éclate, la terre s'ébranle et s'entr'ouvre, la fatalité historique surgit, de son pied de fer elle écrase les têtes de ceux qui hoquettent, titubent, tombent, et ne peuvent plus fuir, et de sa large main elle renverse la France capitaliste, ahurie et suante de peur. Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer les droits de l'homme, qui ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer le droit au travail, qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain, défendant à tout homme de travailler plus de 3 heures par jour. La terre, la vieille terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers. Mais comment demander à un prolétariat corrompu par la morale capitaliste une résolution virile? Comme Christ, la dolente personnification de l'esclavage antique, les hommes, les femmes, les enfants du prolétariat gravissent péniblement depuis un siècle le dur calvaire de la douleur. Depuis un siècle, le travail forcé brise leurs os, meurtrit leur chair, tenaille leurs nerfs. Depuis un siècle, la faim tord leurs entrailles et hallucine leur cerveau. Ô paresse, prends pitié de notre longue misère. Ô paresse, mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines.